Bonjour, vous êtes bien dans notre émission Underscore. En voilà une idée de vouloir mesurer mon quotient artificiel. Les humains ont parfois de drôles d'idées et finissent par se faire dominer par leur création. Nous avons découvrir cela dans un instant.
Bonjour Emmy Mumman.
Bonjour Cécile.
Bonjour les auditeurs de Radio Méga. Ça y est, c'est l'heure de Underscore. Ouais. Et aujourd'hui, nous allons faire quoi? Parler de...
Il y a.
Ouais,
voilà.
Très bien. Eh bien, effectivement, ce sera sur l'intelligence artificielle.
Ouais, j'espère.
Allez, nous allons faire un peu d'actu avant.
Alors, des développeurs de Linux menacent de révoquer leurs contributions.
Ah bah mince alors.
Pour protester contre l'adoption d'un code de bonne conduite par le projet. Ouais, il y en a qui sont pas très contents de dire qu'il faut être inclusif, tout ça, il faut respecter les gens. Et donc, ils menacent de retirer la licence parce que la GPLv2, en fait... ne dis pas qu'on s'interdit de l'enlever, enfin voilà. Donc du coup, c'est un petit peu gênant.
Lol. Microsoft libère 60 000 brevets pour protéger Linux.
Ouais, alors je mettrai des guillemets quand même, hein, parce que voilà. Le géant des logiciels rejoint donc le fonds de propriété intellectuelle, pareil, j'ai oublié les guillemets. Donc l'OIN, Open Invention Network, un truc comme ça, qui propose donc de mettre en commun des brevets au profit de Linux, donc en gros, les entreprises disent bah, ce brevet-là, je renonce à l'utiliser contre ceux qui utilisent Linux. Et donc, ils ne sont pas venus les mains vides, ils offrent 60 000 de leurs brevets. Bon, ça fait bizarre hein, quand même. Et alors, rappelons quand même que dans l'Union européenne, les brevets logiciels sont interdits. Même si de fait, il y en a. Mais quand même, c'est interdit.
C'est un peu bloqué. Hein.
C'est bien de le rappeler. UBlock Origin.
Oui, il permet maintenant de bloquer JavaScript par défaut.
Voilà, sur chaque site ou globalement, donc c'est quand même ce qui marche le mieux pour limiter les codes malveillants parce qu'il y en a de plus en plus sur les pages web. Même sur beaucoup de sites, ça risque de limiter aussi leur fonctionnalité parce qu'il y en a beaucoup qui sont mal conçus et qui ont besoin de JavaScript pour fonctionner, mais bon.
Ouais. Et Firefox remplace Chromium comme navigateur par défaut d'Ubuntu Bungie.
Oui, donc la prochaine version d'Ubuntu, la 18.10, effectivement. Donc, suite à un sondage, en fait, Canonical a donc suivi l'avis de 75% des votants pour remplacer Chromium. Alors, même si on peut l'installer Chromium quand même, c'est juste que c'est plus par défaut, quoi.
Eh bien, Europol mécontent de la disparition du OIS public.
Oui, donc ça, c'est le OIS, en fait, c'est l'annuaire des propriétaires des noms de domaine, enfin, des locataires, parce qu'en fait, c'est loué, mais... Et donc, l'agence européenne estime que la protection des coordonnées des titulaires des noms de domaine est un obstacle à ces enquêtes. Bon, ça, c'est grâce au RGPD.
C'est bizarre, hein.
Voilà, c'est bizarre, hein. Et enfin, la Chine aurait utilisé des puces minuscules pour infiltrer des grosses entreprises américaines.
C'est pas vrai, on n'est plus dans un film.
Franchement, j'ai rien lu du tout là-dessus. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur cette histoire. Je pense qu'on va peut-être attendre un petit peu avant d'en savoir
aussi,
plus.
Ça, ouais. Mais bon, on dirait digne d'un film de science-fiction, enfin de
c'est space,
d'aventure.
Hein.
Google renouvelle sa collaboration avec le Pentagone. Tiens.
Ouais, le contrat portant sur l'IA, tiens donc, ne sera pas reconduit. À la suite d'une pétition lancée en février dernier par des employés de Google, donc, le groupe a donc décidé de mettre fin à ce programme militaire. Parce qu'il y a des employés de Google qui commencent à avoir une conscience, c'est intéressant.
C'est étrange.
Bah oui, voilà.
Peut-être qu'ils sont réveillés par leurs IA.
Ouais, possible. Non, mais après, c'est vrai que voilà, quand tu bosses chez Google, c'est super, c'est merveilleux et tout. Puis bon, au bout d'un moment, quand même, il y en a quand même qui se disent « Ah ouais, quand même, peut-être là, on va un peu trop loin. » Donc c'est bien.
Petite pause musicale ?
Allez-y. Thank you.
En fait, c'était un extrait du film de La Belle et l'Ordinateur, ou Rêves électriques au Québec, Electric Dreams, un film américo-britannique sorti en 1984.
Ouais, c'est vieux, hein.
Ah oui, selon Wiki, l'histoire révèle à la fois de la science-fiction, de la comédie romantique, puisqu'il présente un triangle amoureux entre un homme, une femme et un ordinateur domestique.
Waouh.
Waouh.
C'est space, hein.
Ouais.
Dans le générique final, le film est dédié à la mémoire de l'Univac 1.
Waouh.
Qui devait pas en avoir beaucoup de la mémoire, mais quand même.
Ah oui, c'est vrai. C'est bien.
Ah là là. Bon, passons à notre sujet du jour.
Et oui, l'intelligence artificielle.
Oui. Si on arrive à retrouver la nôtre. Alors, bah oui, je vous en avais promis en 2016 qu'on en reparlerait. Et puis c'est un peu dans l'actu. Alors, bah, allons-y. Hein.
Allez, on y va.
Alors, donc, du coup, définition. Alors déjà, nous, on ne sait pas trop définir ce que c'est que l'intelligence en soi, mais bon, soit. Alors, allons voir notre ami Wikipédia.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Qui, pour le coup, copie la définition de l'encyclopédie Larousse, hein, pour une fois.
C'est étrange.
Voilà. Donc, l'intelligence artificielle, ou IA, est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Elle correspond donc à un ensemble de concepts et de technologies plus qu'à une discipline autonome constituée. D'autres, remarquant la définition peu précise de l'IA, notamment la CNIL, la définissent comme le grand mythe de notre temps.
Oh.
Ouais, c'est beau. Hein. Effectivement, on parle bien de simuler et non de reproduire, donc de donner l'impression dans la majorité des cas. Alors, on va pas vous lire le rapport sur l'IA de Cédric Villani, ça serait un petit peu long.
C'est clair.
On va quand même tenter de démystifier un petit peu tout ça. On va zapper quand même aussi l'historique d'avant l'ordinateur, parce qu'il y a eu plein d'étapes, hein, entre les machines de Léonard de Vinci, le canard de Vaucanson, qui déjà faisaient semblant en fait, de reproduire certains comportements intelligents. Disons juste que ça faisait des siècles que l'homme prétend pouvoir reproduire l'intelligence et que ses créations font de mieux en mieux semblant. Donc peut-être un jour feront-elles suffisamment semblant pour ne plus avoir à faire semblant.
C'est compliqué, c'est
méta. Donc, alors, il y a une citation de Dhiskra, qui est un mathématicien indien. Donc, la question de savoir si les machines peuvent penser est aussi pertinente que la question de savoir si les sous-marins savent nager. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, la penser, c'est une caractéristique des êtres vivants. Ça n'a pas forcément de...
Mécanique.
De transposition dans la machine, ça peut... Voilà, a priori, la machine, elle va peut-être faire autre chose. C'est ce qui sera peut-être mieux ou moins bien, je ne sais pas, mais... Voilà, en tout cas, c'est ce qu'il disait à l'époque. Donc, la recherche de la compréhension de la nature et des mécanismes de l'intelligence a d'ailleurs débouché sur les bases d'informatique, comme notamment l'algèbre de Boole. Mm-hmm. Hein, l'algèbre de Boole, en fait, c'est toutes les opérations sur le binaire et les combinaisons et tout ce qu'on peut faire avec, ce qui a débouché sur le transistor, le microprocesseur et tout ça. Et puis, alors, dans les années 50... alors qu'en fait on en était encore rêvé de pouvoir un jour avoir la puissance de calcul nécessaire, Alan Turing propose dans un article demeuré célèbre un test pour déterminer si une machine peut être définie comme consciente. Alors c'est même plus penser, hein, c'est consciente. Alors, après, c'est
fou, hein, on était déjà dans les années 50. Hein.
Ouais. Alors ce jeu de limitation, comme il l'appelait, suggérait qu'un juge fictif puisse dialoguer d'une part avec une machine et d'autre part avec un humain. À l'aide d'un terminal sans pouvoir les discriminer. Donc, c'est-à-dire qu'ils pouvaient poser des questions à qui ils voulaient, à l'un ou l'autre, mais ils ne savaient pas de quel côté il y avait un humain, de quel côté il y avait une machine. Et donc, en utilisant uniquement un dialogue textuel avec d'une part un humain, donc sans avoir accès à la communication non-verbale propre aux humains, enfin aux primates en tout cas. Parce que
oui, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'émojis dans nos conversations.
Et oui, parce qu'on est obligé d'essayer de transcrire ça, toutes les expressions faciales et tout, dans du texte, et ça, c'est pas forcément évident. Donc du coup, je sais pas si le test de Turing était prévu pour les émojis ou pas, ça serait intéressant de se poser la question. Donc d'une part entre un humain, et d'autre part une machine, qui va donc tenter de passer le texte, on doit pouvoir deviner lequel est humain et lequel est machine. Si on n'y arrive pas, bah, c'est que la machine est suffisamment crédible pour prétendre être consciente, ou au moins...
De faire semblant.
Bah, de savoir faire semblant. Alors, je vais surtout parler quand même des IA faibles, ce qu'on appelle les IA faibles, c'est ce qu'on sait faire actuellement. On fera un petit point sur les IA fortes après, mais c'est vrai que c'est encore un autre sujet. Donc il y a eu plusieurs étapes sur ce chemin qui consiste à imiter encore un comportement intelligent dans certaines situations de façon plus ou moins grossière. Alors au début, il y avait donc des programmes conventionnels, juste des...
Conversationnels, oui.
Conversationnels et assez conventionnels pour l'époque, comme Elisa, avec un Z, qui se font passer pour des humains en répondant plus ou moins à côté de la plaque.
Ah oui, dis donc, c'est comme nous, on a Lisa, quoi.
Ouais, c'est ça. Hey, Elisa. Donc, Joseph Weizenbaum, donc le créateur du programme Elisa, met en garde le public dans son ouvrage « Computer Power and Human Reason ». Si ces programmes semblent intelligents, ils ne le sont pas. Elisa simule très grossièrement un psychologue en relevant immédiatement toute mention du père ou de la mère. Hein, voilà, elle est freudienne, mais c'est un programme. En demandant des détails sur tel élément de phrase et en écrivant de temps en temps « je comprends ». Ouais, c'est une très bonne simulation, je trouve. Hein. Mais du coup, son auteur rappelle qu'il s'agit d'une simple mystification. Le programme ne comprend rien en réalité. Il se contente de réagir à ce qu'on dit. Voilà, il dit « ah bah, il y a un mot à cet endroit-là bah, ». Hop, on va déclencher un truc, c'est on va dire fort. Ah oui, je comprends.
Il
oui.
y a des gens qui le font aussi en réel.
Ouais, bah oui, c'est ça. Et on peut citer aussi MetaX Doctor dans Emacs, hein, qui a un peu la même idée. Hein. On pose des questions et tout, puis il essaie de nous aider ou pas. Donc ces programmes ont gagné en complexité, tout en gardant un comportement prédéterminé et ont été utilisés dans des jeux vidéo, par exemple. Hein. Pour gérer des déplacements des ennemis sur l'écran, etc.
Oui, comme les jeux d'échecs.
Alors après, il y a eu effectivement les programmes dans les jeux d'échecs où on joue contre l'ordinateur. C'est un petit peu la même idée. Hein. Il connaît un certain nombre de stratégies, mais il applique ce que le programme dit, point barre. Alors on rajoute un petit peu parfois d'aléatoire dedans pour éviter que ça se voit trop, mais ça reste quand même un programme classique. Alors un peu plus compliqué, même si c'est pas exactement de l'IA, c'est un petit peu à côté, c'est les algorithmes génétiques. Alors en fait, ce sont des programmes écrits pour manipuler d'autres programmes, pour les rendre plus efficaces par des cycles de modification, test, sélection, un petit peu comme l'évolution biologique choisit les espèces les plus aptes. C'est pas vraiment l'intelligence non plus, mais ça se rapproche un petit peu de...
Du fonctionnement humain.
De la biologie, effectivement. Donc ce genre de logiciel permet, par exemple, de trouver un programme qui va faire marcher un robot sur ses pattes sans qu'on ait à coder, en fait, le processus de la marche elle-même. On va exécuter chaque version d'un programme jusqu'à ce qu'il arrive à bouger une jambe, jusqu'à ce qu'il arrive à avancer un petit peu. Et s'il arrive à avancer, on va garder la modification. Sinon, on va dire, non, cette modification, elle n'est pas top, on va essayer autre chose. Mais ça, c'est pas tout à fait de l'IA... C'est une petite catégorie. Alors, il y a autre chose dans l'IA, c'est le machine learning et le deep learning. Alors, en fait, c'est des poupées russes. Hein. C'est une partie de l'IA et le deep learning, c'est une sous-partie du machine learning. Donc, le machine learning, en fait, ça désigne l'apprentissage automatique, qui est un des domaines de l'IA. Et le deep learning, en fait, c'est une technique spécifique d'apprentissage automatique qui tente de créer des représentations hiérarchiques d'informations qu'on lui présente. Donc certaines méthodes tentent de reproduire le fonctionnement des neurones, enfin en tout cas ce qu'on sait du fonctionnement des neurones, ce qu'on croit savoir, avec donc plusieurs couches dont chaque élément est renforcé s'il détecte correctement ou diminué s'il se trompe, et que l'on entraîne avec énormément de données. Donc plus on va lui présenter de photos de chatons par exemple, et puis de photos d'autres choses en lui disant « ça c'est des chatons, ça c'est des chatons, ça c'est autre chose, ça c'est autre chose », et ben plus on va renforcer certains circuits qui vont pouvoir arriver à détecter des chatons assez facilement.
C'est fou parce que nous, quand tu es sur internet, des fois ils te demandent des CAPTCHA, désigne dans l'image la voiture.
Et ben c'est exactement ça, parce que quand on répond à ça, en fait, on fait le boulot de nourrir ces IA. Justement parce qu'elles sont utilisées, en fait, une fois qu'elles sont entraînées, ça sert à faire de la reconnaissance faciale, de la détection d'objets sur des photos, donc les chatons mais autre chose, hein, ou la retranscription de la parole et bien d'autres choses. Et c'est exactement ce que vous entraînez lorsque vous cliquez sur des cases pour dire « bah oui, là il y a des feux de circulation, là il y a des voitures dans cette case-là et pas dans celle-là », ça lui donne en fait l'information sur le fait que la voiture, elle se trouve à tel endroit, et donc il faut qu'elle renforce tel circuit qui la voit à tel endroit. Donc du coup, ça...
Qu'ils la reconnaissent.
Voilà, donc en fait, on fait du boulot pour Google, et on n'est pas payé. Donc voilà, ça leur permet de s'améliorer, mais du coup, si vous cliquez sur des CAPTCHA comme ça, en fait, vous... potentiellement, vous êtes en train de scier la branche de votre boulot sur laquelle vous êtes assis, parce qu'elles vont peut-être remplacer votre boulot un jour.
Mais ça.
Bon. On n'en est pas encore là.
Le boulot va être transformé de toute façon.
Ça a commencé à venir. Voilà. Mais on reste quand même loin des raisonnements qu'un humain peut faire. Hein. Bon, on pourrait comparer au comportement des insectes qui réagissent à des signaux sans avoir forcément conscience de ce qu'ils représentent. Donc ils ont une intelligence collective qui leur permet de construire des nids, de coloniser des territoires. Mais chaque individu a un comportement assez simple, dicté par les phéromones, leurs antennes, ce qu'ils voient, etc. Donc ils détectent les traces laissées par d'autres, et ils vont la renforcer, créant ainsi des chemins jusqu'à leur nourriture. S'il y en a un qui trouve de la nourriture, il va laisser une trace, et les autres ils vont dire « Ah tiens, il y a quelqu'un qui est passé là, il y a sûrement de la bouffe par là-bas. » Et donc après, ils renforcent la trace, et ça finit par faire des autoroutes, quoi. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont conscience de leurs conditions et ce que c'est que de la bouffe, etc. Bon.
Un peu comme ce qu'on fait avec les réseaux, hein.
Voilà, donc voilà, ça c'est sur les IA faibles. Après, sur les IA fortes, le concept d'intelligence artificielle forte fait référence à une machine capable non seulement de produire un comportement intelligent, mais d'éprouver une impression d'une réelle conscience de soi. De vrais sentiments, ils mettent des guillemets dans le texte hein, sur Wikipédia, mais qu'on puisse mettre derrière ces mots, et une compréhension de ses propres raisonnements. Et ouais, quand même, on est à des années-lumière de ce qu'on sait faire pour l'instant. C'est ce qui se rapprocherait le plus de notre intelligence, et pour le coup, pourrait être considéré comme tel. Mais franchement, donc, on en est encore loin, même si il y a des gens comme Stephen Hawking qui nous ont mis en garde, parce que effectivement, bon, le jour où ça arrive, ça peut être gênant, parce que si l'IA commence à avoir une conscience et à comprendre que l'humain est en train de détruire son écosystème, elle va dire « je vais tuer les humains, ça va résoudre le problème
». Exterminate.
Voilà. voilà, donc pour ce qui est de la conscience... Alors, déjà,
d'où les lois de la robotique.
Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que pour pouvoir, en fait, pour qu'un robot puisse, donc une IA, parce qu'un robot, c'est une machine et avec un cerveau électronique plus ou moins intelligent, pour qu'une IA puisse, en fait, comprendre les lois de la robotique, il faut qu'elle ait conscience. Et donc, ça se mord la queue. Tant qu'elle n'a pas assez de conscience, elle ne peut pas respecter les lois de la robotique parce qu'elle ne peut pas les comprendre.
Bien sûr.
Donc voilà. Et alors pour ce qui est de la conscience, on sait toujours pas ce que c'est exactement. Alors quand t'as la conscience de soi, effectivement, il reste un long chemin avant d'avoir un androïde aussi sympa que Data. Voilà. Bon, je vous mettrai quelques liens pour si vous voulez poursuivre.
Pour compléter,
voilà,
ouais.
Pour compléter, il y a
parce
des trucs.
C'est un sujet vraiment intéressant et passionnant.
Ouais, il y a des débats de Benjamin Bayard, tout ça, et puis un moment Meurice aussi sur l'intelligence artificielle pour rigoler un petit peu.
Waouh.
Voilà, voilà.
Petite pause musicale.
Allez-y.
Une petite pause musicale avec Mochap. It looks so good.
Ouais.
Un peu de kawaii avant de passer à l'agenda. Alors, nous rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors de Rediffusion le samedi.
Eh oui, eh ben c'est la microalchimie. Ouais, on y est déjà
pendant depuis ce matin quoi.
Chouette, on a le don de bilocation, c'est génial.
C'est ça. Ninja du numérique.
Alors, un sur deux, c'est sur deux événements apparemment. Donc, c'est l'atelier d'autodéfense numérique pour améliorer sa furtivité en ligne. Oh là là, ça m'a l'air drôle tout ça.
Donc, ça se passe à l'usine Vivante, 24 rue Adrien Fayol, à Cray, le 25 octobre de 12h30 à 14h.
Ouais, circuit électronique, carte Arduino et robot. Alors, atelier jeune, donc le 27 octobre, c'est au LOL, au LOV, le laboratoire ouvert Villeurbanne. Ils nous ont piqué l'acronyme.
Et non pas LOV.
L'acronyme qu'ils avaient proposé au LOD, mais du coup, nous, on a choisi LOD, mais du coup, ils ont pris LOV. C'est sympa. Oui. Et donc, il poursuit sa série d'ateliers à destination des jeunes. Venez découvrir le Fab Lab autour d'activités ludiques sur le thème de l'électronique.
Ça se passe le samedi 27 octobre de 14h à 17h au laboratoire ouvert de Villeurbanne, donc 21 place des Maisons Neuves à Villeurbanne.
Il y a la Groenland Game Weekend numéro 17, donc GGW17.
Ouais, vous êtes invité à l'aventure de la Groenland 17e édition.
Le 7 lieux de Visil et le collectif Groenland proposent une LAN party, donc des jeux vidéo en réseau, du vendredi 26 au dimanche 28 octobre non-stop. Donc le prix est maintenant de 15€ par participation pour le week-end. Et ils font même des commandes de pizza groupées et tout pour ceux qui se fêtent. C'est une vraie LAN party.
C'est marrant, hein.
Ouais, donc c'est du 26 au 28 octobre au 7 lieux, 1 rue Pierre et Marie Curie, 38220 Visil. Je pense qu'il doit falloir s'inscrire quand même.
Alors, nous allons frotter la boule de cristal. Et que vois-tu dans l'astrologique? Otaku, kawaii. T'as le mot à la bouche, tu vois, dès que tu vois un chat. Bah arrête de manger de l'herbe. Hein.
6 admin, à ce qui paraît tu manques de caractère.
Libriste, bientôt l'hiver, vite, la banquise se reconstitue.
Ouais, pour les pingouins. Old school, j'ai joué aux morses. Bip.
Voilà, hacker, c'est l'heure pour toi de te faufiler dans les backdoors.
Oh là là. Codeur, ah, j'ai fait un merge request. Hashtag ironem, hashtag tutut.
Elle était très bonne celle-là.
Ouais,
ma foi, encore une belle série.
Non, celle-là, elle est de moi, là. Ah, là, j'avoue, elle est de moi.
Je vois que tu as un petit peu fait aussi des astrologiques, c'est bien.
Mais pourtant, j'ai pas bu.
Bah non, hein, mais bon. Eh bien, merci les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Nous vous remercions pour cette écoute. Nous vous proposons de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet proposé par Maître Bell, justement, qui va vous parler de vocodeurs. À très bientôt, les amis. Bye bye.
Bye bye.